Alors l'énergie, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie et au développement économique. Alors l'énergie, ça sert à plusieurs choses. La première, c'est par exemple produire de la chaleur. S'il fait chaud dans cette pièce, c'est parce qu'effectivement, il va y avoir des radiateurs donc qui consomment de l'énergie, qui fournissent du chauffage. Vous en avez besoin pour fabriquer du travail. Donc quand vous montez dans une voiture, vous consommez de l'énergie pour faire bouger le véhicule. Ou ça peut servir, par exemple, à faire de la lumière. Alors comme il y a plein de sources d'énergie dans la nature, les économistes essayent de les comparer les unes entre autres, de la même manière que quand on vous dit pour votre nourriture vous devez manger par exemple 1000 kilocalories, ben, ça sera peut-être un petit morceau de beefsteak ou alors un gros paquet de carottes. Donc ils essayent de comparer les énergies entre elles, et c'est pour ça que souvent vous verrez dans la littérature ils parlent de tonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire quand on regarde une source d'énergie, on essaye de savoir combien il faudrait d'équivalent pétrole pour fournir la même chose. Alors vous avez entendu parler, que ce soit à la télévision ou à la radio, du baril de pétrole. Alors un baril de pétrole, ça représente 159 litres. Quand vous entendez qu'un baril de pétrole, ça vaut par exemple 80 dollars, après il faut appliquer le taux de change pour obtenir des euros, donc c'est de l'ordre, c'est un peu moins de 60 euros le baril, et donc le litre de pétrole brut, ça sera 36 centimes. 36 centimes, c'est à peu près deux fois moins cher que l'eau minérale. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où le pétrole, au prix coûtant, c'est deux fois moins cher que l'eau minérale. Et c'est ce qui a fait la richesse de notre civilisation. Alors, le prix de 80 dollars le baril, ça n'a rien à voir avec le vrai prix du pétrole. Ça, c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Le vrai prix du pétrole, quand vous êtes dans des pays comme l'Arabie Saoudite, ça sort à 2-3 dollars le baril. Donc, quelqu'un qui sort du pétrole à 2-3 dollars le baril et qui le revend à 80 dollars le baril, vous voyez la marge bénéficiaire, qui est répartie entre les États qui produisent le pétrole, les pétroliers, etc. Bon, et en plus en France, quand vous faites le plein d'essence dans une voiture, vous avez en plus les taxes. Quand vous ramenez au niveau des taxes, c'est un baril à peu près à 200 dollars le baril. Alors, les unités, normalement vous avez entendu parler déjà au collège, l'unité officielle d'énergie, c'est le joule. Alors le joule, c'est une toute petite quantité d'énergie. Ça représente à peu près 50 fois quand vous tapez sur les touches d'un clavier d'ordinateur. Et moi, l'unité que je vais utiliser, c'est celle qu'en général vous voyez sur les factures d'électricité ou les factures de gaz, c'est le kilowattheure. Alors le kilowattheure, c'est une énorme quantité d'énergie. Ça représente 3,6 millions de joules. Alors, pour donner des ordres de grandeur, quand vous avez un radiateur électrique qui fait 1000 watts, enfin 1 kilowatt, quand vous branchez pendant une heure, vous faites marcher pendant une heure, il a consommé 1 kilowattheure. Pour alimenter un réfrigérateur pendant un an, il vous faut à peu près 1 milliard de joules. C'est-à-dire de l'ordre de 400, en gros, c'est de l'ordre de 400-500 kWh pour l'année. Alors 1 kWh, c'est une grande quantité d'énergie. Si vous prenez 3,6 tonnes d'eau, donc 3600 litres d'eau, si vous les remontez d'une hauteur de 100 mètres, donc vous prenez par exemple 3600 litres d'eau minérale, des bouteilles d'un litre, vous les montez au premier étage à Tour Eiffel, vous avez dépensé 1 kWh. Et vous voyez que vous serez assez fatigué. C'est aussi l'énergie que possède un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km/h. Alors vous rendez bien compte que si vous mettez devant un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km/h, il vous écrase, il n'est même pas ralenti. Donc ça veut dire que pour vous tuer, il vous faut bien moins qu'un kilowattheure. Alors avec un kilowattheure, vous pouvez faire fondre 10 kg de glace. Vous pouvez chauffer de l'eau entre 20 degrés et 100 degrés, vous pouvez chauffer 10 kg d'eau, vous pouvez faire bouillir 1,5 kg d'eau. Alors faire bouillir de l'eau, c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus en plus d'énergie dans le monde? Alors il y a deux facteurs qui contribuent à ça. Le premier, c'est que la population mondiale, elle augmente de manière énorme. Aujourd'hui, par exemple, tous les jours, vous avez 200 000 nouveaux habitants sur la Terre. C'est-à-dire que vous avez à peu près 500 000 naissances et 300 000 morts. Donc là, le sol, c'est 200 000 personnes. Alors, plus vous avez de personnes sur la Terre, plus vous avez besoin d'énergie, parce que c'est des personnes qui auront besoin de se transporter, de se chauffer, etc., de faire cuire leur nourriture. Et d'autre part, il faut bien voir que sur la planète, vous n'avez que des gens pauvres. Parce qu'en France, on est encore des privilégiés, mais la plupart des gens sont très pauvres. Et la seule manière dont on peut augmenter son niveau de vie, c'est en consommant plus d'énergie. Alors nous, ça ne sert à rien qu'on consomme plus d'énergie, parce que nous, on est déjà tellement riches qu'on ne deviendrait pas forcément plus riche en consommant plus d'énergie. Par contre, dans les pays en voie de développement, quand ils n'ont rien, s'ils veulent faire un peu de commerce, ils sont obligés d'avoir une camionnette. Une camionnette, il faut de l'énergie pour la construire, il faut du pétrole pour la faire rouler. Alors vous voyez que la population mondiale, bon, en 1800, c'était à peu près 1 milliard d'habitants. Et maintenant, on atteint presque les 7 milliards d'habitants. Donc il y a une croissance absolument énorme. Et cette croissance, elle vient du fait qu'on a eu de l'énergie qui était pas chère. Ça a permis d'assurer, de faire beaucoup de progrès et d'augmenter notamment l'espérance de vie des gens. Alors comme je vous ai dit, les gens sont très pauvres. Sur les 6-7 milliards d'habitants qu'il y a sur Terre, vous en avez presque la moitié qui vivent avec 2 dollars par jour, c'est-à-dire moins de 2 euros. Vous en avez même 1 milliard qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Vous avez 1,6 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors comme en général c'est dans les pays du Sud, et dans les pays du Sud le jour est égal à peu près égal à la nuit, c'est-à-dire que notamment quand les enfants rentrent de l'école, ils peuvent aller à l'école, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ils n'ont pas de lumière pour faire leurs devoirs. Alors ça gêne peut-être pas certains, mais c'est important de faire les devoirs. Alors ce que vous voyez aussi, c'est que qu'est-ce qui va se passer dans notre siècle actuel, c'est que les gens qui vont orienter la politique au niveau mondial, ce sera les gens qui seront en Asie, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'habitants. Vous regardez les petits bonshommes là, c'est vraiment, il va y avoir un poids de plus en plus élevé des pays émergents. Donc je vous ai dit, utiliser de l'énergie, ça permet de faire des progrès. Par exemple, avec de l'électricité, on peut alimenter un réfrigérateur, et notamment on a pu inventer des réfrigérateurs. Les réfrigérateurs, ça a évité aux gens d'avoir des cancers de l'estomac. Donc ça permet d'augmenter l'espérance de vie. Alors quand vous regardez, par exemple, un Français, avant la Révolution française, l'espérance de vie d'un Français, c'était 28 ans. En 1900, c'était 50 ans, et aujourd'hui, c'est 80 ans, et vous avez, une grande partie d'entre vous, de grandes chances d'atteindre 100 ans. Et ça, c'est parce que on a de l'énergie à notre disposition. Alors on peut regarder, il y a des pays sur la planète, donc notamment ces pays pauvres, qui eux n'ont pas accès à l'énergie. Et c'est intéressant de regarder quelle est leur espérance de vie. Et on s'aperçoit que les pays les plus pauvres, eh bien leur espérance de vie c'est moins de 40 ans. Alors quelles sont les sources d'énergie? Presque toute l'énergie qu'on utilise sur la Terre, elle vient du Soleil. Alors c'est le Soleil qui a fabriqué ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz. Ça a été fabriqué soit à partir de la biomasse terrestre, par exemple des fougères, soit à partir du plancton dans les mers. Le plancton, ça conduit au pétrole et au gaz, les fougères, ça conduit au charbon. C'est le soleil aussi qui fabrique des énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, alors donc il y a l'eau, ça c'est normal parce que le soleil, quand il chauffe la terre, il y a de l'eau qui s'évapore, et puis ensuite l'eau elle retombe, et puis si on la capture à une certaine altitude, ben, on peut fabriquer l'électricité dans les barrages. Bon, vous pouvez l'utiliser directement. L'éolien, c'est-à-dire le vent, ça vient aussi du soleil, parce que quand vous avez dans une pièce, si vous chauffez d'un côté, s'il fait froid de l'autre, vous avez des courants d'air. Donc sur la Terre, c'est la même chose. Au pôle, il fait froid, à l'équateur, il fait chaud, donc vous avez des courants d'air, donc ça fait du vent. La biomasse, donc ça, c'est tout ce qui pousse, hein. Donc ça, on a besoin de soleil. Enfin, pour faire pousser des plantes, ben, il faut du soleil, de l'eau et du gaz carbonique. Si bien que si vous êtes dans un désert, ben, vous avez du soleil, du gaz carbonique, mais vous n'avez pas d'eau, donc il n'y a pas grand-chose qui pousse. Puis à d'autres endroits, ben, vous allez avoir de l'eau, du soleil, mais vous n'aurez pas de soleil. Alors il y a deux énergies qui ne viennent pas du soleil, c'est d'une part l'énergie nucléaire. Alors l'énergie nucléaire, c'est de l'uranium qui existe dans la Terre, et cet uranium, il vient de poussière de vieilles étoiles, d'étoiles bien plus qui sont désintégrées bien avant que le système solaire existe. Et nous, le système solaire, il a été formé à partir de ces poussières d'étoiles. Et la géothermie, donc l'énergie qu'il y a sous la Terre, là, ça vient aussi de la radioactivité, parce que justement, il y avait des noyaux radioactifs dans ces poussières d'étoiles, et ça dégage de la chaleur, et 90% de la géothermie vient de la radioactivité. Et puis vous avez une énergie renouvelable dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle la chaleur à basse température. La chaleur à basse température, c'est par exemple la chaleur qui existe dans l'air de cette pièce. Et vous pouvez être capable de récupérer les calories qui sont contenues dans cette chaleur. Alors quand on parle d'énergie renouvelable, ça veut dire que c'est renouvelable à l'échelle humaine. C'est-à-dire quand vous coupez un arbre, vous en replantez un, ben, 10, 20 ans après, vous avez encore un autre arbre, etc. C'est renouvelable. Quand vous coupez un arbre et que vous ne le replantez pas, vous n'en replantez pas un autre, c'est plus renouvelable. C'est ce qui se passe dans certains pays. Ils coupent les forêts, mais ils ne les replantent pas. Donc dans ce cas-là, c'est comme quand vous puisez dans un puits de pétrole. Alors, notre monde, il est dominé par les combustibles fossiles, et c'est ce qui a fait notre richesse. Bon, du temps des Romains, une bonne énergie renouvelable, c'était les esclaves. Parce que l'esclave, c'est renouvelable parce que ça se reproduit, d'une part. Quand vous en avez pas assez, vous allez faire une invasion à côté, vous en ramenez. Alors après, au Moyen-Âge, ce qui a fait la richesse du Moyen-Âge, c'est les énergies renouvelables, bon, qu'on veut réutiliser maintenant, donc l'eau, le vent, la biomasse. Et puis nous, notre civilisation, ce qui fait notre richesse, ce sont les combustibles fossiles qui valent pas cher, c'est moins cher que l'eau minérale. Et quand on regarde notre civilisation, ce qu'on consomme en énergie, ben vous avez plus de 80% qui vient du pétrole, du charbon et du gaz. C'est-à-dire que si demain, on disait il ne faut plus consommer de pétrole, charbon et de gaz, et ben la civilisation elle s'écroule. Et ce qui reste, et ben il y a un petit peu d'énergie nucléaire et puis un peu plus d'énergie renouvelable. Et cette énergie renouvelable, c'est essentiellement de la biomasse, hein, c'est-à-dire le bois que les gens font brûler dans les cheminées ou les déchets. Alors, on dit souvent les énergies renouvelables sont gratuites. Alors c'est vrai, c'est gratuit. Quand vous allez dehors, on ne vous a pas encore fait payer l'énergie du soleil. Ce qui est cher, c'est de la récupérer. Parce que le pétrole, c'est une énergie qui est gratuite. Ce n'est pas l'homme qui l'a fabriqué, c'est la nature. Ce qui coûte cher, c'est de récupérer le pétrole. Alors, en fait, récupérer du pétrole, ça coûte beaucoup moins cher que de récupérer du soleil. Parce que le pétrole, c'est une énergie qui est concentrée. Alors, quand on regarde l'être humain, parce que pourquoi l'être humain, il a besoin d'énergie? C'est que ça lui permet de faire du travail, donc de s'enrichir, d'augmenter son confort. Alors, nous, on a besoin d'énergie, c'est la nourriture. Quand on calcule combien de kilowattheures il nous faut pour arriver à vivre un petit peu, enfin, normalement, vous apercevez que c'est un peu moins de 3 kWh par jour. C'est-à-dire que nous, on est équivalent à une lampe de 100 watts allumée 24 heures sur 24. Donc vous voyez la différence, une lampe de 100 watts, ça vous donne un petit peu de lumière. Vous, vous êtes capable de faire de tas de choses avec la même puissance de 100 watts. Alors il y a des cas où l'homme, enfin l'être humain, a besoin de plus d'énergie que d'habitude. C'est notamment le cas de la femme quand elle fabrique un bébé. Alors ça se traduit par le fait que vous savez que les femmes enceintes, elles ont plus d'appétit que quand elles ne sont pas enceintes. C'est fait qu'effectivement, il faut de l'énergie pour nourrir le bébé. Alors, il y a des gens qui sont amusés à mesurer combien il faut de kilowattheures pour fabriquer un bébé. Alors, on trouve à peu près, c'est 90 kilowattheures. Donc, c'est 90 kilowattheures sur 9 mois. Alors, 90 kilowattheures, qu'est-ce que ça représente dans la vie de tous les jours? Quand vous avez un litre d'essence, c'est 10 kilowattheures. Donc, vous voyez qu'une grossesse en énergie, c'est la même chose que 9 litres d'essence. Et avec 9 litres d'essence, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites une centaine de kilomètres en voiture. Donc ce qui montre que, au niveau biologique, on est bien plus efficace que les systèmes énergétiques qu'on utilise dans la vie courante. Alors la nourriture, c'était la source d'énergie essentielle de l'homme préhistorique. Hein. Et même avec ça, il mangeait nettement moins bien que nous. Alors nous, il y a beaucoup de gens encore qui crèvent de faim sur la planète, mais si on fait la somme de toute la nourriture, ben, on s'aperçoit que ça représente 5-6% de l'énergie totale qu'on consomme dans le monde. C'est-à-dire que pour nous, c'est marginal, la nourriture, en termes d'énergie. Alors, c'est pas marginal en termes de nos besoins. Alors, attendez, ça descend plus, hein. Et ça doit bugger. Alors l'énergie, elle n'est pas chère. Vous faites l'expérience, vous prenez 10 centimes d'euros et vous le jetez à la sortie du lycée. Et vous regardez le nombre d'élèves qui va se baisser pour ramasser 10 centimes d'euros. Tout le monde ne se baissera pas. Or, avec 10 centimes d'euros, vous pouvez acheter chez EDF 1 kWh. Et 1 kWh, c'est deux fois l'énergie qui est capable de fournir un bûcheron dans la journée. C'est-à-dire que nos ancêtres, un bûcheron, ils payaient hein, quand même. Nous, avec 10 centimes, on dit c'est négligeable, et pourtant, on a deux fois plus d'énergie que ce que peut fournir un bûcheron. Bon, chez vous, quand vous prenez une famille moyenne, on consomme à peu près 3500 kWh, alors pas pour chauffer, mais pour tout ce qui est la cuisine, le réfrigérateur, la télé, le magnétoscope, etc. Si on voulait, si dans votre maison, vous installiez par exemple des vélos avec une dynamo, vous savez, vous avez des lampes électriques où on tourne comme ça pour fabriquer l'électricité. Bon, vous pouvez mettre des vélos dans un appartement, là, et puis vous dites aux gens de pédaler. Et alors, la question, c'est combien ça me coûterait si j'embauchais des gens pour pédaler sur un vélo et pour alimenter mon foyer en électricité? Eh bien, actuellement, pour les 3500 kWh, quand vous l'achetez chez EDF, ça vous coûte 350 euros pour l'année. EDF, lui, ça lui revient à peu près à 100 euros. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour 100 euros d'électricité, prix coûtant, Vous arrivez à alimenter l'énergie de tous les ustensiles d'un foyer. Si vous payez des gens sur des vélos pour fabriquer cette électricité, en les payant au SMIC, en tenant compte des charges sociales, ça vous reviendrait à 750 000 euros. Et ça serait une équipe de gens, 30 personnes qui travaillent à temps plein, qui pédaleraient pour essayer de faire marcher votre télévision, votre réfrigérateur, etc. Donc on est vraiment dans une civilisation où c'était pas cher, parce qu'il y a 300 ans, le peu de gens qui étaient riches, ils avaient des domestiques pour faire ce travail. Et ils avaient un confort qui n'était pas le confort du français moyen d'aujourd'hui. Alors, on a une énergie abondante, on a une énergie pas chère. Le problème, c'est qu'on est très nombreux sur la planète, on est de plus en plus nombreux, et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Alors, on a deux contraintes. La première contrainte, c'est le fait que ce qui a fait notre richesse, c'est de faire brûler du charbon, du pétrole et du gaz. Et malheureusement, ça émet du gaz carbonique. Et donc, ça augmente l'effet de serre naturel de la Terre. Et ça peut conduire à un changement climatique. Donc ça, c'est le premier problème. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on émet dans l'atmosphère deux fois plus de gaz carbonique que ce que la nature peut absorber. Alors, la nature, c'est les océans, c'est les plantes qui poussent. Donc, chaque fois que vous émettez 2 kg de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y en a un qui est absorbé par la nature, il y en a un autre qui reste dans l'atmosphère. Et donc, il contribue à accroître l'effet de serre. Alors, une voiture, l'ordre de grandeur, pour vous donner un ordre de grandeur, une voiture, ça va émettre 3 tonnes de gaz carbonique dans l'année. C'est-à-dire, en gros, 2 à 3 fois le poids de la voiture. Le deuxième chose, c'est que ce pétrole, qui est gratuit, puisque c'est la nature qui l'a fabriqué, on est en train de l'épuiser. C'est une ressource finie, c'est comme quand vous avez un héritage. Donc il y a un jour, il n'y en aura plus. Mais avant qu'il n'y en ait plus, comme il y en aura peu, et les gens se battront pour en avoir, les prix vont augmenter. Alors, il ne faut pas confondre, parce que très souvent, les gens ils disent, par exemple, pour lutter contre le changement climatique, il faut émettre moins de gaz carbonique. Et les gens, ils confondent émissions de gaz carbonique et énergie. Donc ils disent, diminuons notre consommation d'énergie. Alors ça, c'est pas vrai. Vous prenez par exemple un Suédois, il consomme deux fois plus d'électricité qu'un Danois. Donc ça veut dire, en termes électriques, il consomme deux fois plus d'énergie. Par contre, il émet deux fois moins de gaz carbonique. Donc vous avez le Danois qui consomme deux fois moins d'énergie, et le Danois, il émet deux fois plus de gaz carbonique qu'un Suédois. Donc il ne faut pas confondre énergie et gaz carbonique. Alors les énergies renouvelables, alors les gens les appellent les énergies nouvelles. Alors elles ne sont pas du tout nouvelles parce que c'est les premières qu'ont utilisé l'homme. Dès qu'il a découvert le feu, les gens pensent que c'est à peu près il y a 500 000 ans, ils ont commencé à utiliser les énergies renouvelables. J'espère qu'il ne va pas redémarrer celui-là. Bon. Alors le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont peu concentrées. Quand vous prenez un gramme d'eau qui tombe de 100 mètres, vous fabriquez 0,3 millième de watt-heure. Si vous prenez un gramme d'uranium 235, vous allez fabriquer 23 000 kWh, c'est-à-dire 23 millions de watt-heure. Et si vous utilisez un gramme de pétrole, vous allez fabriquer 1,2 watt-heure. Donc ça veut dire que le problème des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont très peu concentrées par rapport à nos besoins. Alors, aujourd'hui, on les utilise pour faire de la chaleur et l'hydraulique pour faire de l'électricité. Fabriquer l'électricité avec de l'eau, c'est la meilleure méthode, c'est la moins polluante. Alors, il y a aussi une idée fausse, c'est qu'on a l'impression que notre civilisation, on a laissé tomber les énergies renouvelables et on a utilisé du pétrole, du charbon et du gaz. Alors ça, c'est faux, parce que si on regarde par rapport à il y a 200 ans, on consommait 5 fois moins d'énergie renouvelable qu'aujourd'hui, même plus de 5 fois moins. Et il y avait 3 fois moins de personnes qui l'utilisaient. Parce qu'en 1800, vous aviez 1 milliard d'habitants, et ils utilisaient tous les énergies renouvelables, puisque le pétrole, ils ne connaissaient pas. Maintenant, vous avez 3 milliards d'habitants, c'est les plus pauvres, qui consomment des énergies renouvelables sous forme de biomasse. Donc vous en avez 3 fois plus qu'en 1800. En 1800, on consommait 0,2 milliard de tonnes équivalent pétrole. Aujourd'hui, on en consomme 1 en énergie renouvelable. Donc ça veut dire qu'on en consomme 5 fois plus. Donc c'est faux de dire qu'aujourd'hui, on consomme moins d'énergie renouvelable que nos ancêtres. On en consomme beaucoup plus et il y a beaucoup plus de monde qui en consomme. La seule différence, c'est que nous, nos besoins d'aujourd'hui, ils sont sans commune mesure avec ceux de nos ancêtres. Dans l'ancien temps, les gens, ils vivaient dans une seule pièce, ils avaient des vaches qui faisait le chauffage, hein, et puis maintenant les gens vivent soit dans des grands appartements et tout, qu'il faut chauffer, et donc ça consomme de l'énergie. On va bientôt friser la catastrophe. Hein. On a peut-être encore le temps. Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est pas de dire on va faire comme nos ancêtres, on va remplacer, on va éliminer pétrole, charbon et gaz, et remplacer ça par des énergies renouvelables, parce que ça serait pas possible de faire ça à 100%. Ou alors à un coût tel que tous les gens seraient ruinés. Il faut bien voir que actuellement, si on vous dit, on vous forçait les gens à utiliser de l'énergie solaire et en les payant au prix réel, eh bien la facture d'électricité d'un Français serait multipliée par 10. Donc un ménage qui consomme 1000 euros dans l'année, eh bien, il serait obligé de payer 10 000 euros si c'était du solaire. Donc on voit bien qu'économiquement, c'est pas acceptable. Donc le problème d'aujourd'hui, ça va être d'utiliser les énergies renouvelables pour diminuer la consommation de combustibles fossiles. Et dans le futur, on aura sans doute fait des progrès suffisants pour effectivement en utiliser un peu plus. Mais on ne va pas les remplacer complètement. C'est un peu comme quand vous prenez par exemple le cas d'un bateau. Bon, dans l'ancien temps, les gens ils avaient le bateau à voile. Donc si vous faites Paris-New York, eh ben, vous ne savez pas trop quand vous partez, vous ne savez pas trop quand vous arrivez, parce qu'il faut qu'il y ait du vent et qu'il souffle dans la bonne direction. Aujourd'hui, vous avez un bateau qui fonctionne avec du pétrole. Hein. Lui, vous savez quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il arrive. Bon. Demain, on aura sans doute des bateaux dans lesquels vous aurez, en plus du moteur diesel, vous aurez une voile. Et quand le vent soufflera dans la bonne direction, ben, on montera la voile. Si bien que, ben, au lieu de consommer que du pétrole, et ben, de temps en temps, vous consommerez un peu de vent. Et au total, ben, vous diminuerez votre consommation de pétrole. Mais on va pas revenir à la marine à voile. Alors dans les énergies renouvelables, ce qu'il faut, c'est aussi une bonne efficacité énergétique. Si vous avez des maisons des années 70 en France, hein, vous pouvez toujours mettre des énergies renouvelables, vous n'arriverez jamais à les chauffer, parce que ça fuit de partout. Pour utiliser des énergies renouvelables, il faut que ce soit très très efficace. Quand le CEA installait des énergies, enfin installait du solaire dans des pays pauvres, hein, c'était en gros une lampe, une télévision et un tout petit frigidaire pas plus grand que ça pour mettre des vaccins. Et c'était même pas pour une famille, c'était pour un village. Donc c'est pas du tout le niveau de vie auquel on a l'habitude. Et quand vous faites du solaire, comme le prix du kilowattheure solaire, c'est pas 10 centimes, mais c'est 1,5 euros, eh bien je peux vous dire que les gens ils font des économies. Hein. En plus, surtout si leur revenu c'est de l'ordre de 1 euro par jour. Donc l'efficacité énergétique c'est important. La deuxième chose c'est qu'il faut savoir stocker de l'énergie. Alors il y a des énergies comme l'hydraulique, ben, le stockage il est un peu naturel, hein. Quand il pleut vous remplissez un barrage, puis quand le barrage est plein, ben, vous enturbinez un petit peu pour fabriquer l'électricité, puis vous débrouillez pour toujours garder un peu d'énergie dans la retenue. Donc vous avez fait le stockage de manière naturelle. Mais quand vous avez des panneaux solaires, un panneau solaire vous n'avez de l'électricité que le jour, quand il y a du soleil. La nuit vous n'en avez pas. Quand vous avez une éolienne, vous avez de l'électricité que quand vous avez du vent. Donc vous êtes obligé de stocker l'énergie si vous voulez utiliser cette énergie en dehors des heures où elle est produite. Alors nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, quand il n'y avait pas de vent, ben, le type il faisait la sieste, il attendait, quoi. Mais aujourd'hui, vous travaillez en flux tendu dans les entreprises, vous acceptez pas, vous, quand vous rentrez dans votre maison, quand vous appuyez sur l'interrupteur, vous seriez très mécontent si vous n'aviez pas électricité pour allumer vos télévisions, vos lumières. Hein. Mais alors, dans certains pays d'Afrique, ils utilisent des panneaux solaires pour pas tuer les batteries, il faut pas trop les décharger. Ben, si vous regardez une émission de télévision le soir, eh bien, si la batterie commence à être critique, eh ben, on coupe le courant. Et dans ce cas-là, ben, il faut attendre le lendemain pour pouvoir avoir l'électricité. Quand vous avez un panneau solaire, il vous faut pour alimenter simplement un frigidaire, il faudrait quelques mètres carrés de panneaux solaires. Mais quelques mètres carrés de panneaux solaires, ça veut dire avoir de l'énergie que quand il y a du soleil, c'est-à-dire le jour. La nuit, ça veut dire qu'il faudra arrêter votre frigidaire. Pour le faire fonctionner, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une batterie le jour pour la charger et que cette batterie ensuite elle alimente votre frigidaire la nuit. Donc on voit que c'est des problèmes qui sont très très complexes, le problème des énergies renouvelables. Alors il faut l'éducation et la formation, donc ça on n'en fait pas assez, hein, c'est-à-dire que les gens, actuellement on parle d'énergie renouvelable mais il n'y a personne qui sache les installer. Quand vous voulez faire installer des énergies renouvelables chez vous, vous avez une chance sur deux de tomber sur un escroc, hein, parce qu'il va vous installer n'importe quoi. Et encore peut-être même pas bien installé. Donc il y a un problème de formation au niveau des lycées professionnels et c'est des filières où les gens gagneront bien leur vie. Et il faut de gros investissements. C'est-à-dire que quand vous achetez du pétrole, le pétrole il faut aussi des gros investissements. Seulement vous ne le voyez pas parce que vous le payez chaque fois que les gens vont à la pompe à essence ou chaque fois qu'ils remplissent leur cuve au fioul. Donc ils payent en quelque sorte à crédit. Dans le cas des énergies renouvelables, eh bien, là, ça sera le consommateur qui va investir. C'est-à-dire, s'il dit, au lieu de m'acheter un cumulus qui vaut 500 euros, je me fais installer un chauffe-eau solaire qui vaut 10 000 euros, eh bien, c'est pas le même investissement. Donc, il va falloir de l'argent. Et comme, en général, les gens ne vont plus en avoir beaucoup, il va falloir imaginer des mécanismes de financement. Alors, je prends un exemple. Vous êtes une famille, vous avez une chaudière au fioul. Ça vous coûte 3 000 euros de fioul dans l'année. Alors maintenant, vous dites, je vais passer une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, ça vous coûtera 500 euros d'électricité. Donc normalement, vous avez 2500 euros de bénéfices. Le problème, c'est que la pompe à chaleur, on va vous demander 20 000 euros pour l'installer. Donc vous n'avez pas l'argent pour l'installer. Donc ce qu'il va falloir trouver, c'est des gens qui, comme dans les pays d'Afrique, disent, ben, on vous installe la pompe à chaleur, enfin presque gratuitement, et seulement, ben, aujourd'hui, vous payez 3 000 euros pour acheter le fioul, eh bien, moi, je vous demande 2 000 euros l'année prochaine. Donc pour vous, vous avez gagné 1 000 euros. Et lui, sur les 2 000 euros, ben, il va payer les 500 euros d'électricité et puis il gardera 1 500 euros pour se rembourser la pompe à chaleur plus ses intérêts. Mais on voit que si on n'a pas des nouveaux mécanismes de financement, on ne pourra pas développer les énergies renouvelables. Alors, je ne sais pas comment on va faire là. Parce que... Non, parce qu'il bloque tout, celui-là. Alors, la biomasse. La biomasse, donc, c'est tout ce qui pousse, mais ça peut être aussi les déchets. Alors, déjà, à la fin du Moyen-Âge, la biomasse était insuffisante. C'est-à-dire que les gens, ils avaient coupé tous leurs arbres. Alors, les arbres, ça servait à fabriquer des maisons, à chauffer, à fabriquer des bateaux. Donc, il n'y avait plus assez de biomasse. Et notre civilisation, civilisation occidentale, se serait écroulée. Heureusement, on est passé au charbon. Le charbon, c'était quelque chose qui était mal considéré, hein. Il y a une époque, le roi d'Angleterre avait fait paraître un édit disant que toute personne qui serait prise à faire brûler du charbon près de la place royale aurait la tête coupée. Donc c'était pas bien vu, le charbon. Mais comme il n'y avait plus de bois, eh bien c'était soit la civilisation s'écroule, soit on passe à une autre source d'énergie. Donc actuellement on essaye de vendre la biomasse pour faire tout, parce que la biomasse ça sert à l'alimentation, ça sert à chauffer, ça sert à faire l'électricité, on peut faire des biocarburants. Vous pouvez faire des nouveaux matériaux, de la chimie, etc. Alors, il n'y en aura pas assez pour tous les usages, puisqu'il y en avait déjà pas assez au XVIIIe siècle. Et il y avait 30 millions de Français, alors qu'aujourd'hui, on est 60 millions et on consomme beaucoup plus. Donc, il va falloir faire des choix. Alors, les choix, en général, ils sont orientés par les gouvernements. C'est-à-dire que si demain, vous dites, fabriquer des biocarburants, ça va vous rapporter beaucoup d'argent, qu'est-ce que fait le paysan? Il ne fait plus que des biocarburants. Et donc, il ne va plus vous fabriquer de la nourriture. Et c'est ce qui se passe dans certains pays du monde aujourd'hui, où les gens favorisent les biocarburants par rapport à la nourriture. Alors la biomasse, c'est quelque chose qui va être très précieux dans le futur, parce que quand il n'y aura plus de pétrole ni de gaz naturel, eh bien, on n'aura plus de matériaux organiques pour fabriquer tout ce que vous avez sur vous. Quand vous avez un pull vert, vous avez un mélange souvent d'acrylique et tout, les chaises, tout ça, c'est du plastique. Et c'est fabriqué à partir du pétrole. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, comment est-ce qu'on va fabriquer ça? Eh bien, il faudra du carbone organique, et le carbone organique, on le trouvera dans la biomasse. Donc, dans le futur, la biomasse, ça sera très important. Et quand vous aurez une plante, aujourd'hui, quand vous avez une plante, vous en prenez une partie, puis le reste, vous jetez. Eh bien, dans le futur, on utilisera toutes les parties de la plante, parce que ça sera du carbone qui sera très précieux. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez, par exemple, 3 kg de bois, c'est l'équivalent de 1 kg de pétrole. Il faut beaucoup plus de bois pour fournir la même énergie que le pétrole. Alors, dans les pays pauvres, ce qu'ils utilisent beaucoup, c'est les déchets. Alors, nous, les déchets, en général, on récupère de l'énergie en les incinérant, mais le but, c'est de détruire les déchets. Dans les pays pauvres, eux, pour eux, le déchet, c'est de la richesse. C'est-à-dire, vous trouvez une bouse de vache, de la fiente de porc, etc., de la fiente de volaille, des excréments de porc, tout ça, c'est de la richesse, parce que ils vont mettre ça dans un poêle. En général, ils sont dans des logements tout petits, donc les vapeurs, ça va en plus attaquer les poumons des enfants et tout. Mais pour eux, c'est le seul moyen d'avoir de l'énergie. Et la moitié de la population mondiale utilise ce type de biomasse pour se chauffer, faire sa cuisine. Alors nous, dans les pays occidentaux, ce qu'on essaye maintenant, puisque le problème, c'est que quand vous regardez les voitures et les camions, c'est basé exclusivement sur la consommation de pétrole. Il y a plus de, vous arrêtez le pétrole, vous fermez le pétrole dans un pays, les premières choses qui s'arrêtent, c'est les voitures et les camions. Donc l'idée, c'est de faire des biocarburants. Alors les biocarburants, c'est pas neuf. Déjà dans les années 1900-1910, en France, on disait qu'il faut fabriquer des biocarburants pour l'indépendance énergétique. Et puis après, le pétrole, il valait tellement rien, hein, puisque le pétrole, dans les années 30-40, ça valait 1 dollar le baril, ça valait rien, que ça a tué les biocarburants. Et avec le choc pétrolier, ben, la mode est revue, on commence à réutiliser les biocarburants. Alors vous allez avoir trois générations de biocarburants. La première génération, c'est celle dont vous avez entendu parler. C'est soit l'éthanol, donc l'alcool, hein, qu'on fabrique à partir de la betterave à sucre, de la canne à sucre, etc., qu'on va mettre dans les véhicules à essence. Et puis vous avez le biodiesel qu'on fabrique à partir du colza et qu'on mettra dans les véhicules diesel. Alors le problème, c'est que quand vous avez ce type de biocarburant, ça rentre en compétition avec la biomasse alimentaire. C'est-à-dire ce qui pouvait se manger avant, ben maintenant ça va dans le réservoir de votre voiture. C'est pour ça que les gens réfléchissent à des biocarburants de deuxième génération qui seraient d'utiliser les taillis, les morceaux de bois, donc ce qu'on appelle la biomasse lignocellulosique, celle qu'on ne mange pas. Alors ça, c'est l'avantage, c'est qu'il n'est pas en compétition avec la biomasse alimentaire, qu'en plus, vous utilisez en général pas d'engrais pour les faire pousser, et en plus, par certaines astuces, vous pouvez, avec de l'énergie extérieure, avoir des rendements qui sont 2 à 3 fois supérieurs aux rendements traditionnels avec la canne à sucre ou de la betterave. Et puis vous allez avoir dans le futur la troisième génération qui sera d'utiliser des algues. Et si vous voyez sur la figure, quand vous utilisez des algues, eh bien vous avez des rendements qui peuvent être 10 fois supérieurs à ce qui existe avec les plantes terrestres. Et il est fort possible que dans 50-100 ans, le pétrole qu'on utilise sur la Terre, eh bien il viendra de la mer, enfin donc des algues. Alors l'hydraulique, c'est l'énergie la meilleure pour fabriquer l'électricité. Quand vous êtes dans un pays qui a des montagnes, la première chose à faire, c'est faire de l'hydraulique. C'est ce qu'a fait la France, puisque en 1960, vous aviez 56% de la production d'électricité française qui venait de l'hydraulique. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a construit des centrales nucléaires? Eh bien, c'est parce qu'à partir de cette époque-là, les Français ont été tellement gourmands en énergie que de toute manière, il n'y avait plus de place pour mettre de nouveaux barrages. Il n'y avait plus de possibilités. Donc c'est la raison. Alors si ça n'avait pas été des centrales nucléaires, ça aurait été des centrales au charbon ou des centrales utilisant du pétrole. Alors vous avez des barrages qui sont... Il va peut-être démarrer. Ah, voilà. Bon, il va falloir attendre que ça redémarre. Alors donc vous avez des barrages, hein, comme le barrage des Trois Gorges en Chine, qui font 15 gigawatts de puissance, c'est-à-dire l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires, mais seulement la retenue d'eau, elle va faire 600 km de long. Donc c'est des choses considérables qu'on ne pourrait pas avoir dans un pays comme la France. Alors il y a une autre source d'énergie venant de l'eau qu'on peut utiliser, c'est l'énergie des mers. Alors la France a un avantage, c'est que c'est le deuxième pays, tout juste derrière les États-Unis, qui a la plus grande surface des mers au monde. Hein. Troisième étant l'Australie. Alors pourquoi est-ce qu'on a de grandes surfaces maritimes? C'est parce que, en fait, il y a des tas de petites îles dans le Pacifique, et comme vous avez le droit à une certaine distance à partir de la côte, quand vous ajoutez tout ça, ça vous fait des surfaces considérables. Alors qu'est-ce que vous pouvez prendre? Il faut le redémarrer ou quoi? Alors, vous avez plusieurs manières de tirer l'énergie de la mer. Alors, une des manières, c'est par exemple d'utiliser les marées. Vous savez que l'usine de la Rance, c'est la plus grande usine marémotrice au monde, mais elle fait même pas la moitié d'un réacteur nucléaire. Et on a 58 réacteurs nucléaires en France. Alors l'usine de la Rance, ça utilise les marées. Donc quand les marées, c'est quelque chose qu'on peut prédire à l'avance, hein, alors que vous ne pouvez pas prédire à l'avance quand il va pleuvoir. Eh bien malgré tout, le prix du kilowattheure d'une usine marémotrice est 2 fois plus cher que le prix du kilowattheure d'une usine d'un barrage hydraulique habituel. C'est beaucoup moins efficace. Une autre manière d'utiliser la mer, c'est de mettre des éoliennes en plein milieu de la mer, hein, parce que là, en général, le vent il est plus régulier et plus fort, donc vous avez des meilleurs rendements. En plus, il n'y a personne pour regarder, donc ça gêne moins les gens. Vous avez l'énergie des courants. Dans l'énergie des courants, c'est vous mettez des sortes d'éoliennes, c'est ce qu'on appelle des hydroliennes, que vous mettez sous l'eau, et puis avec le courant, ça fait tourner la turbine. Alors normalement c'est plus efficace qu'une éolienne parce que dans une éolienne c'est de l'air qui fait tourner les pales. Dans la mer ça sera de l'eau. Or l'eau ça pèse bien plus lourd, ça a une densité bien plus supérieure à l'air, c'est 1000 fois supérieur. Donc c'est plus efficace. Alors au total, On n'a pas ce facteur 1000 parce que, en général, dans un courant, ça ne va pas à la vitesse du vent. Vous n'avez jamais des courants qui vont à 100 km/h. Alors, donc en, la vitesse de l'eau, en général, elle est plus faible que la vitesse de l'air, mais quand vous faites le bilan, vous apercevez qu'une hydrolienne, c'est 2 à 3 fois plus efficace qu'une éolienne. Vous avez donc l'énergie des courants. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers. Alors, ça marche que dans les pays chauds. Ça utilise le fait que dans ces pays chauds, notamment dans le Pacifique, dans, on a des îles, eh bien, vous allez avoir l'eau en surface qui va être 27-28 degrés. À 1000 mètres de profondeur, c'est 4 degrés. Donc, vous avez une différence de température avec laquelle vous pouvez fabriquer une machine qui récupère cette énergie-là. Alors, c'est des énergies qui, pour le moment, sont à l'état de recherche parce que ce n'est pas rentable. Si on était obligé de payer notre électricité avec ces énergies-là, je veux dire, personne ne pourrait se le payer. Donc, ça va repartir. Vous prenez n'importe lequel. Ouais, le deuxième, c'est bon. Je vais la reprendre. 13, ouais. Bon, 14, alors. Non, alors c'était même plus.
Ah, vous avez continué. Ouais,
donc je vais faire 14. 15. Alors le soleil, vous avez plusieurs manières de l'utiliser. Soit vous l'utilisez pour fabriquer de la chaleur. Donc c'est par exemple un chauffe-eau solaire. Alors, le chauffe-eau solaire, ça marche bien dans les pays chauds. Dans un pays, dans une région comme la région parisienne, ça vaut pas grand-chose. Moi, j'en ai fait installer un. Je me suis aperçu que depuis que j'ai fait installer, je consomme plus d'électricité qu'avant. Parce que dans un chauffe-eau solaire, vous êtes obligé de mettre une résistance. Quand le soleil est pas suffisant, c'est la résistance qui chauffe. Et en plus, même si vous aviez suffisamment de soleil, il vous faut une résistance pour chauffer l'eau. Sans ça, vous aurez de la légionellose. Donc, on s'aperçoit que les énergies renouvelables, c'est un problème qui va être très complexe, parce que nous, on ne fait pas comme nos ancêtres, on commence à couper le bois, etc. On veut que ce soit automatique, et c'est ça qui rend les choses complexes. Alors, une autre manière d'utiliser la chaleur du soleil, c'est les centrales solaires. Donc ça, c'est ce que vous faites quand vous prenez une loupe, vous pouvez enflammer un papier. Donc là, on prend des miroirs, on concentre l'énergie solaire, on peut atteindre des températures de 1000 degrés, et avec ça, utiliser cette chaleur pour fabriquer l'électricité. Et puis, ce dont on entend beaucoup parler, c'est le solaire photovoltaïque. Alors le solaire photovoltaïque, c'est quelque chose qui n'est pas rentable aujourd'hui. Peut-être que demain, c'est l'énergie d'avenir, parce que demain, on arrivera certainement à le rendre rentable. Mais aujourd'hui, ça ne marche que par des subventions. Si vous n'aviez pas de subventions, il n'y aurait pas d'énergie photovoltaïque dans nos pays à nous. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie qui est 10 fois plus chère que l'électricité fabriquée par d'autres moyens, comme le pétrole, le gaz ou l'énergie nucléaire. Et alors, quand vous êtes dans un pays pauvre, où il n'y a pas de réseau électrique, eh bien, si vous voulez avoir de l'énergie la nuit, il vous faut une batterie. Et quand vous rajoutez une batterie, eh bien, vous augmentez de 1 euro pratiquement le prix du kilowattheure. Et donc là, ça devient vraiment très 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 cher. Alors en plus, quand vous avez des panneaux solaires, il faut les fabriquer. Et les fabriquer aujourd'hui, enfin les technologies qu'on utilise aujourd'hui, ça consomme beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que vous empruntez de l'énergie pour fabriquer vos panneaux solaires, ensuite vous exposez vos panneaux solaires au soleil, et ensuite, vous faites un bilan. Vous pouvez vous demander combien d'énergie solaire il va falloir pour rembourser l'énergie qu'il a fallu pour les fabriquer. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 4 ou 5 ans. Mais un panneau solaire, ça dure 25-30 ans. Donc, ça veut dire au moins que pendant 15-20 ans, vous allez avoir de l'énergie gratuite. Mais si vous rajoutez une batterie, vous arrivez rarement à rattraper l'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer. Et vous apercevez qu'un système solaire, dans un pays en voie de développement, qui fonctionne pendant 30 ans, ben vous avez au moins 15-20 ans qui servent à rembourser l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer. Donc aujourd'hui, le problème du solaire, c'est qu'on n'a pas les technologies pour faire de l'énergie pas chère. Ça ne marche qu'avec les subventions. Alors les subventions, c'est très intéressant. Il y a des gens qui s'enrichissent actuellement avec ça. C'est-à-dire que vous achetez de l'électricité, c'est ce que vous voyez là-haut, vous achetez de l'électricité, EDF, ça lui coûte 3-4 centimes d'euros, il est obligé de le racheter à plusieurs dizaines de centimes d'euros. Donc vous pouvez imaginer effectivement des gens, d'ailleurs EDF vient de s'apercevoir qu'il y a des escrocs qui font ça, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'électricité la nuit, qu'ils ne payent pas cher, et puis ils renvoient sur le réseau EDF en disant c'est l'électricité solaire, Alors que la nuit, il n'y a pas de soleil, quoi. Et puis, par contre, ils la revendent à EDF beaucoup plus cher, quoi. Donc, s'il n'y avait pas de subvention, ce genre d'énergie ne se développerait pas dans les pays occidentaux. Et en plus, ça ne produit pas grand-chose. Il faut retenir que quand vous avez un carré de 10 sur 10 de silicium cristallin, vous avez fabriqué 1 kWh d'énergie par an. Donc, quand vous prenez 1 mètre carré, ça vous fait 100 kWh par mètre carré hein, dans l'année. 100 kWh, un réfrigérateur, il en faut 400. Donc, ça veut dire que rien que pour alimenter un réfrigérateur, il faudrait 4 mètres carrés de panneaux solaires. Or, le panneau solaire, lui, va fournir de l'électricité que le jour. Donc, pour faire fonctionner votre réfrigérateur la nuit, il va falloir stocker l'énergie solaire le jour, une partie de l'énergie solaire, dans des batteries pour le faire marcher la nuit. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est quand même relativement compliqué. Mais bon, il faut quand même retenir que l'énergie solaire, c'est quand même l'avenir. Parce que tous les jours, vous recevez 10 000 fois plus d'énergie que ce que vous consommez. Alors l'éolien, c'est encore trop cher, c'est-à-dire c'est 2 à 3 fois le prix du kilowatt standard. Et alors le problème, c'est que quand on vous donne des puissances installées et tout, en général c'est des puissances théoriques, c'est-à-dire en supposant qu'il y ait du vent 100% du temps. Mais ce n'est pas le cas. Vous prenez le cas de l'Allemagne, en Allemagne, eux ils ont installé beaucoup d'éoliennes, mais malheureusement ils n'ont pas beaucoup de vent. Nous en France, on n'a pas beaucoup d'éoliennes, mais nous on a du vent. Alors, en Allemagne, par exemple en 2003, ils avaient installé une certaine puissance. Eh bien, ça représentait 15% de vent dans l'année. C'est-à-dire que sur les 8800 heures de l'année, eh bien, ils avaient 15% de ces 8800 heures en vent utilisable, à 100%. Donc, c'est-à-dire que, et la plupart du temps, c'est que votre éolienne, quand elle fournit du courant, vous n'avez pas de consommateur en face. Et puis, quand vous en avez vraiment besoin, vous n'avez pas assez de vent pour les faire tourner. Alors, vous avez le... Si on voulait installer des éoliennes en France, on pourrait se dire, bon ben on arrête une centrale nucléaire, on remplace ça par 5000 éoliennes. Eh bien le problème c'est que les éoliennes, quand il n'y a pas de vent, eh bien il faudrait une centrale à gaz à côté pour fabriquer l'électricité. Donc on polluerait beaucoup plus qu'avant. Mais vous prenez le cas d'un pays comme le Danemark. Au Danemark, ils ont des centrales à charbon. Donc quand ils installent des éoliennes, eh bien au moins la centrale à charbon ne tourne pas. Donc eux ils diminuent leur pollution. En France, on augmenterait notre pollution. Au Danemark, on la diminuerait. Alors, l'intermittence, c'est vraiment un problème embêtant. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de vent, c'est vraiment un problème embêtant. Alors, prenez le cas du Danemark. Au Danemark, ils ont des éoliennes qui fabriquent de l'électricité. Et très souvent, cette électricité, elle est fabriquée quand il n'y a pas, de consommateur pour l'utiliser. Donc, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, ils exportent l'électricité dans un pays voisin, genre la Suède. La Suède va prendre cette électricité, elle va remonter d'eau dans les barrages, et quand les Danois vont avoir besoin d'électricité le lendemain matin, on va turbiner l'eau des barrages. La seule différence, c'est que les Danois, ils vendent l'électricité pas chère, puisque personne n'en veut, et ils la rachètent à une heure de pointe, où c'est très cher. Et comme déjà l'État, il a forcé les industriels à racheter l'électricité très chère par un mécanisme de subvention, on s'aperçoit que finalement tout le monde est perdant. Alors, la géothermie, 99% de la Terre est à une température supérieure à 200 degrés. Et vous avez même 0,1% de la masse qui est à une... vous n'avez que 0,1% de la masse qui a une température inférieure à 100 degrés. Alors, en fait, sous la Terre, il fait très chaud. Alors, heureusement que c'est isolant, parce que si ce n'était pas isolant, toute la chaleur de la Terre passerait à la surface, et donc nous, on serait brûlés. Alors, d'où vient la géothermie? Bon, comme je vous l'ai dit, ça vient d'une part du fait que la Terre s'est formée à partir de poussière d'étoiles, et donc il y a une partie de l'énergie, c'est comme quand vous comprimez de l'air avec une pompe à vélo, ben, il y a de la chaleur qui se dégage. Et puis surtout, ça vient pour 90% de noyaux radioactifs qui sont des poussières d'étoiles. Alors, en général, quand vous descendez de 100 mètres de profondeur, vous avez à peu près une augmentation de température de 3 degrés. Mais vous avez des endroits sur Terre, bon, c'est notamment le cas de l'Islande, vous avez en gros des fissures où l'énergie, la chaleur qui est sous Terre remonte, et donc vous avez des ressources géothermiques qui sont bien plus importantes. Alors, une des énergies renouvelables qu'on commence de plus en plus à utiliser, c'est ce qu'on appelle la chaleur à basse température, grâce à un engin qu'on appelle la pompe à chaleur. Alors la pompe à chaleur, ça consiste... Vous achetez par exemple 1 kWh d'électricité, et puis vous prélevez 2 à 3 kWh de chaleur à l'environnement. Et au total, vous allez fabriquer, par exemple, de l'ordre de 4 kWh de chaleur. Mais sur les 4 kWh de chaleur, vous aurez payé qu'un kWh d'électricité. Alors, en général, vous prélevez ces calories à des sources qui sont froides. Donc ça peut être l'air ambiant, ça peut être l'eau, ça peut être dans le sous-sol. Alors, Stockholm, par exemple, utilise la mer Baltique, qui n'est pas une mer chaude, hein, pour se chauffer. Et puis Tokyo utilise, par exemple, l'eau des égouts pour se chauffer. Alors, dans le futur, quand vous prendrez, par exemple, une douche, on pourra récupérer l'énergie de la douche, qui sera peut-être 18 degrés, on la pompera et on la rejettera encore plus froid. Alors, à la différence des machines qui fabriquent de l'électricité, comme des centrales nucléaires, des centrales à charbon, dans ces centrales-là, pour que le rendement soit bon, il faut que la différence de température entre la source chaude et la source froide soit la plus grande possible. Avec une pompe à chaleur, c'est le contraire. Il faut que la différence de température entre la température que vous allez utiliser et celle de votre source froide soit la plus faible possible. C'est pour ça que si vous utilisez une pompe à chaleur avec le sol, lui, il est toujours à une température qui n'est pas très loin de votre maison, vous aurez un très bon rendement. Si vous l'utilisez avec de l'air, quand il fait très froid, vous allez avoir une grande différence de température et donc là, le rendement sera beaucoup moins bon. Mais la pompe à chaleur, c'est un instrument d'avenir. Alors le stockage de l'énergie, comme je vous ai dit, c'est le point faible des énergies renouvelables. Alors, il y a plusieurs choses. Quand vous regardez la production d'électricité en France, vous apercevez, par exemple, à 4 heures du matin, les gens dorment, on ne consomme pas beaucoup d'électricité. Par contre, quand ils se lèvent, il y a un pic, et puis le soir, quand ils allument leur télévision à 8 heures, il y a un pic d'électricité. Et le problème, c'est que c'est très très difficile de répondre à la demande. On est obligé de faire démarrer des centrales qui démarrent rapidement, par exemple des centrales à charbon ou des centrales à fioul, et ça pollue beaucoup. Donc l'idéal, c'est d'avoir une courbe la plus plate possible. C'est un peu comme quand on vous dit, la moyenne de maths dans une classe, c'est 14. Tout le monde n'aura pas 14. Il y en a qui auront peut-être 8, et puis d'autres qui auront 18, quoi. Donc là, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est arriver à lisser la production d'électricité. Et le stockage de l'énergie, ce qu'on utilise en France et dans beaucoup de pays qui ont des montagnes, c'est justement la nuit, on remonte de l'eau dans les barrages et puis le petit matin, quand les gens se lèvent, on turbine cette eau pour fabriquer l'électricité. Alors une autre manière de stocker l'énergie, c'est ce que les gens, un certain nombre d'entre vous dans votre famille, vous avez des cumulus. Le cumulus, c'est un bon moyen de stocker l'énergie. Parce que quand vous dormez, on chauffe l'eau. C'est-à-dire là, on n'a plus besoin d'électricité, il n'y a plus beaucoup de consommateurs. Donc vous chauffez l'eau quand vous dormez. Et ensuite, dans la journée suivante, vous utilisez l'eau, mais vous ne consommez pas d'électricité. Alors que si vous étiez obligé de chauffer votre eau quand vous en avez besoin dans la journée, tout le monde la chaufferait en même temps. Donc vous auriez un pic de consommation. Alors, quand on regarde en énergie contenue, on voit bien que le plus efficace, l'essence, c'est un moyen de stockage. Si vous allez en milieu de l'Amazonie avec une bouteille d'essence de 1 litre, vous savez que vous avez 10 kWh dans votre bouteille. Donc c'est pas beaucoup. Donc 70 grammes d'essence, ça correspond à peu près à 1 kWh. 70 grammes d'essence, ça fait à peu près 100 centilitres. Quand vous utilisez des batteries au plomb, pour avoir 1 kWh, il vous faut 25 kg. Si vous utilisez des batteries de vos téléphones portables, il faut diviser ça par 3 ou 4, donc ça veut dire que vous allez avoir encore 5-6 kg de batterie pour avoir 1 kWh. L'eau, c'est encore pire. L'eau, c'est 3600 kg d'eau qu'on remonte à une hauteur de 100 mètres. Donc on voit bien que le problème du stockage, c'est un problème qui est crucial. Et là-dessus, il est très très difficile de faire des progrès. Alors vous avez entendu parler, il y a beaucoup de publicité sur les voitures électriques, parce qu'on dit on ne va plus avoir de pétrole, les gens ne veulent plus dépendre trop des pays pétroliers, donc on va changer de technologie, on va passer à des voitures électriques. Alors les voitures électriques, quand il y en aura beaucoup, ou les voitures électriques ou hybrides rechargeables, les problèmes qui vont se poser, c'est est-ce qu'on aura assez de matières premières pour fabriquer les batteries. Or, par exemple, le lithium, c'est une matière qui va devenir stratégique. C'est-à-dire votre voiture, elle consommera peut-être plus de pétrole, mais vous aurez besoin de lithium. Et le lithium, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans certains pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie, etc. Donc, ça sera, eux, les nouveaux rois du pétrole. Vous en trouvez au Tibet. Quand vous fabriquez un moteur électrique à aimant permanent, il vous faut du néodyme, qui est une terre rare. Or, actuellement, où est-ce qu'on trouve cette ressource? On la trouve en Chine. Et actuellement, la Chine est en train de fermer les robinets en se disant « Je ne vois pas pourquoi j'exporterais des terres rares ailleurs pour fabriquer des téléphones portables, pour fabriquer des moteurs électriques, alors que je peux le faire chez moi. Donc les gens commencent à fermer le robinet, justement sur ce type de ressources. Donc, dans notre monde, on va peut-être évoluer vers des nouvelles technologies, mais ces nouvelles technologies vont avoir besoin de matières premières, et ces matières premières, on risque encore d'en manquer. Alors l'autre chose, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique. Parce que le meilleur kilowattheure, c'est celui que vous n'avez pas fabriqué. C'est celui qui vous coûte le moins cher. Donc la priorité, et notamment quand on va utiliser les énergies renouvelables, c'est d'être économe. Alors on peut distinguer la sobriété et l'efficacité. Alors la sobriété, c'est quand vous avez une voiture ou un cyclomoteur qui consomme, une voiture qui consomme par exemple, 10 litres au 100. Si vous passez à une voiture qui consomme 8 litres au 100, ben, elle est plus sobre. Et elle sera aussi plus efficace. Bon, quand vous êtes dans une pièce, quand vous sortez, que vous éteignez l'électricité, ben là, vous faites des économies comme ça. Alors, quand vous êtes dans une maison, le fait de diminuer de 1 degré la température de la maison, vous gagnez 7% de l'énergie. Donc c'est pas rien, 7%. Quand vous avez une facture énergétique de 3-4 000 euros, eh bien 7% de 3-4 000 euros, c'est quand même pas rien. Actuellement, il y a beaucoup de travail qui est fait sur l'éveil des appareils. Alors l'éveil, quand vous avez une télévision, sans doute chez vous, et quand vous l'éteignez, vous appuyez sur la télécommande. Hein, et il y a une petite lumière rouge qui reste allumée. Alors dans les télévisions qui ont 4-5 ans d'âge, hein, eh bien ça consomme énormément en veille. Je prends un exemple, hein, vous prenez une télévision qui a une puissance de 80 watts. Quand vous la regardez 3 heures dans la journée, ça vous fait 240 watt-heure de consommé. Maintenant, vous l'éteignez avec votre télécommande. Si vous avez une veille qui consomme 15 watts, eh bien sur 21 heures, ça vous fait 315 watt-heure. Donc vous avez le paradoxe, c'est que votre télévision éteinte a consommé bien plus que la télévision allumée pendant les 3 heures. Donc actuellement, il y a des progrès qui sont faits pour essayer de diminuer la puissance d'éveil. Parce qu'on s'aperçoit que quand vous prenez une famille européenne, eh bien, l'éveil, ça concerne le four à micro-ondes, le magnétoscope, la télévision, ça représente à peu près 10% de l'énergie qu'on consomme en électricité. En électricité non spécifique. Alors, bien sûr, il y a des progrès. Quand vous regardez aujourd'hui comment on fabrique une tonne de fer, eh bien, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, vous avez divisé par 150 la quantité d'énergie qu'il fallait. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, la population, elle a rien à voir avec ce qu'elle était au Moyen-Âge. Alors, comment est-ce que vous pouvez arriver à forcer les gens à être plus économes? Alors, vous avez trois leviers. Premier levier, c'est la technologie. Quand vous avez une lampe basse consommation, a priori, ça consomme moins qu'une lampe à incandescence. La seule différence, c'est que votre lampe basse consommation, si vous la laissez allumer 24 heures sur 24, elle va consommer plus qu'une lampe normale qui est allumée une demi-heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, on voit bien que chaque fois que vous changez de technologie, vous avez des avantages et des inconvénients. Avant, on avait des lampes à incandescence. Maintenant, ça devient petit à petit interdit. Mais les lampes basse consommation, vous ne pouvez pas les jeter dans une poubelle. Parce qu'il y a du mercure dedans. Et donc, vous pouvez polluer l'environnement si vous le jetez n'importe comment. Ensuite, vous avez les pouvoirs publics qui vous orientent. Alors, vous avez la loi du bonus-malus, là. Alors, ça, c'est une bonne loi, puisque une loi est bonne quand vous avez le choix. Donc le bonus-malus, vous avez le choix. Vous pouvez soit vous acheter une Ferrari si vous avez les moyens, vous allez payer un malus, soit vous achetez une petite voiture et vous aurez un bonus. Donc là, les gens, ils ont le choix. Vous avez un autre exemple de mauvaise orientation, c'était la loi carbone, la taxe carbone. Ça, c'était une mauvaise loi parce que ça taxait les plus pauvres. C'est-à-dire, généralement, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils habitent loin de leur lieu de travail parce que c'est là où les loyers sont moins chers. Hein. Donc ça veut dire qu'en général, ils ont une... souvent, il n'y a pas de transport en commun, donc ils ont une vieille voiture pourrie, donc ils consomment beaucoup. Donc c'est ceux-là qui étaient taxés. Et ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc c'était forcément une mauvaise loi. Et puis vous avez le troisième, c'est le consommateur final. Quand vous dites, je vais partir en vacances, je ne sais pas moi, à Tahiti, eh bien il faut bien voir que ramener à la journée, c'est comme si vous aviez consommé 40 kWh. C'est-à-dire que par jour, pendant les 365 jours, simplement le kérosène qu'il fallait pour l'avion. Avec 40 kWh, eh bien, sur 2 ou 3 jours, c'est à peu près l'énergie que consomme un travailleur avec ses postes informatiques sur son lieu de travail. Donc les loisirs, c'est quelque chose qui consomme énormément de choses. Il est fort possible que dans 50 ans, quand vous irez dans une agence de voyage, vous dites « je veux aller à Tahiti », ben on vous donnera le remplaçant du DVD, vous rentrerez chez vous, vous aurez une pièce de réalité virtuelle, vous mettrez dans un fauteuil, vous mettrez la chose, et puis on reconstituera la plage et tout. Etc. Alors en conclusion, on va dans un monde où l'énergie va devenir de plus en plus chère et puis où les matières premières vont devenir de plus en plus rares. Donc la première chose à faire, c'est d'être sobre et économe. Alors on aura besoin de toutes les sources d'énergie. Il n'y a pas une énergie qui est meilleure qu'une autre. Il faut utiliser celle qui est la plus efficace pour une situation donnée. Il va falloir essayer de développer de plus en plus des énergies qui n'émettent pas de gaz carbonique à cause de l'effet de serre, donc c'est-à-dire les renouvelables et le nucléaire. Exploiter la chaleur à basse température, donc avec des pompes à chaleur. Il n'y a pas de solution unique. Par exemple, si vous avez une vieille maison, si votre voisin il a une maison neuve, la solution pour le chauffer ne sera pas la même. Vous allez avoir une évolution vers des systèmes hybrides. Un système hybride, c'est par exemple le cas du bateau, le bateau dans lequel vous allez mettre une voile. Donc quand le vent souffle dans la bonne direction, vous récupérez de l'énergie. Vous allez avoir besoin de plus en plus d'électricité. Par exemple, pour faire fonctionner une pompe à chaleur, vous avez besoin de plus d'électricité. Mais on peut vivre nettement mieux tout en consommant moins. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vivre moins bien en consommant moins ou en consommant plus. Merci.